France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Souad Boukorsa, Martine Moni, Alexandre Billard et Olivier Déhaye. Voici une émission que nous allons consacrer à Jean Giono, 50 ans jour pour jour, après le décès de l'écrivain le 9 octobre 1970 dans sa ville natale de Manosque. Hier soir à 23h dans les trésors de France Musique, Françoise Monteil nous avait proposé la diffusion d'un entretien que Jean Giono avait donné en 1965 à Jean Bury, où il évoquait ses goûts et ses dégoûts musicaux. Nous allons revenir aujourd'hui sur les passions musicales de l'auteur du Hussard sur le toit, de Jean le Bleu, d'Angelo, d'Un roi sans divertissement, ou encore de ce roman de 1935 intitulé « Que ma joie demeure ». Jesu bleibet meine Freude, Jésus, que ma joie demeure, ou plutôt Jésus, virgule, demeure ma joie, continue à être ma joie. Extrait d'une cantate de 1723 de Jean-Sébastien Bach que la pianiste anglaise Myra Hess avait ainsi transcrite pour le piano et que jouait ici Yvonne Lefébure en septembre 1955 à Paris. Un enregistrement qu'a pu entendre Jean Giono, lui dont la discothèque contenait près de 600 micro-sillons. « Je ne mets rien au-dessus de la musique », écrivait Giono, dont l'œuvre est parsemée de références musicales, comme ce titre du roman de 1935 « Que ma joie demeure ». En 1990, 20 ans après la mort de Giono, Aline et Sylvie Giono présentaient un livre illustré aux éditions Guy Benucci intitulé « Giono sur la musique », un livre dont nous sommes en grande partie inspirés pour la programmation de cette émission, ainsi que d'une thèse d'André Lotté présentée en 1996 à l'Université de Montréal sous le titre « La musique dans l'œuvre de Jean Giono », une thèse accessible en ligne sur notre site internet notamment et qui revient en détail sur la musique dans l'œuvre de Giono, c'est le titre, mais aussi aussi dans sa vie, comme ses venues fréquentes au Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, dont Jean Giono était membre du comité d'honneur. Et il a été également préfacier d'un spectacle d'Aix-en-Provence sur la flûte enchantée de Mozart. Giono, qui était présent en 1950 à Aix pour entendre Don Giovanni, avec notamment Léopold Simoneau dans le rôle de Don Ottavio. Dans cette salve d'applaudissements, il y a les mains de Jean Giono, présent en 1950 pour applaudir le ténor Léopold Simoneau en Don Ottavio avec l'orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire dirigé par Hans Rosbaud dans cet extrait de Don Giovanni de Mozart. Qu'est-ce qui vous a incité à venir assister au festival de 1950, lui demandait-on ? L'amour pour Mozart et pour Mozart seul, la joie que me faisait par avance entendre Mozart et Mozart seul, la nécessité d'avoir dans cette terrible vie moderne la halte, le repos, la joie Mozart et Mozart seul, le besoin de Mozart. Et puis Don Juan est présent dans quelques-unes des œuvres, notamment le Moulin de Pologne avec deux épigraphes qui citent des textes de l'Oraison da Ponte, un extrait du livret. Et nous allons écouter un autre extrait de ce Don Juan avec la fameuse sérénade que Don Juan chante à la paysanne Zerline, sérénade d'une grande volupté. À la limite de l'obscénité, nous dit Jean Giono. C'est une musique qui touche pour moi à l'expression psychologique la plus parfaite. Il y a mille choses comme ça dans Don Juan à chaque instant.
Thank you.
C'est la voix de Suzanne Dancaux que nous entendions à l'instant dans le rôle de Donna Elvira. Auparavant, Anna Moffo était Zerlina et Antonio Campo Don Giovanni dans ce Don Giovanni à Aix-en-Provence avec l'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire dirigé par Hans Rosbaud. Jean Carrère qui demandait à Jean Giono ce qu'il aurait emporté sur une île déserte avec 3 livres et 3 disques. Eh bien, j'emporterai les œuvres complètes de Machiavel. J'emporterai 2, le journal de Stendhal. J'emporterai 3, Don Quichotte. Voilà pour les 3 livres. Quant à la musique, eh bien, le concerto numéro 6 de Handel, concerto grosso, Feu d'artifice de Handel aussi, ça fait 2. Et puis alors, si je pouvais avoir en un seul disque Don Juan, j'emporterais Don Juan de Mozart. Tu comprends, le jeu était trop facile avec 3. Il aurait fallu me dire un seul livre et un seul disque, j'emporterais alors Don Quichotte. Et je sous-entends bien sûr qu'il emporterait aussi ce Don Juan sur une île déserte. Alors, après le mélomane Jean Giono, voici, revoici l'écrivain Jean Giono avec Jean le Bleu, récit autobiographique qui évoque son enfance passée à Manosque, et puis les éveils aux parfums, aux couleurs et à la musique. La flûte s'élança et comme un serpent qui, debout dans l'herbe, construit avec la joie ou la colère de sa chair les fugitives figures de son désir, elle dessina le corps de ce bonheur dédaigneux qui habite la tête libre des parias. Certes, ni le violon ni la flûte ne dirent pour moi tout ce que je viens d'écrire. Cette deuxième fois où j'entendis la polonaise, j'étais un petit garçon plein de la dame en vert. Mais depuis, je me suis sifflé 1000 et 1000 fois cette air-là. Et chaque fois, j'ai revu les visages dégoûtés et hautains de « Décidément » et de « Madame la Reine ».« Bach !» dit « Décidément ». La petite voix de Bach, ajouta Madame la Reine en secouant sa flûte. Enregistrement qu'a pu entendre Jean Giono, c'est le flûtiste Marcel Moïse, accompagné par l'orchestre de chambre d'Adolphe Busch, violoniste, la polonaise de la suite numéro 2 en si mineur BWV 1067 de Jean-Sébastien Bach. D'ailleurs, petite erreur dans le texte de Jean Le Bleu, il parle d'une suite en mi mineur, elle est en si mineur, mais peu importe, c'est bien cette mélodie tristement allègre dont il est question dans ce roman, hymne d'amour entre Jean Le Bleu et sa dame. Voici un autre exemple musical tiré de l'œuvre de Giono. C'est en 1958, cette fois-ci, avec Angelo. Il est question de la valse au regret, comme on appelait parfois la valse opus 39, numéro 15 de Johannes Brahms, assise au piano devant la grande fenêtre. Sa mère pleurant, par où se découvrent 100 lieues d'Alpes. Voilà un extrait d'Angelo qui évoque cette partition importante pour Jean Giono, qui la sifflotait. Il adorait siffler, il sifflait très bien, paraît-il. Lorsqu'il siffle les regrets, il lui relève que ce morceau de Brahms demeure inextricablement lié au souvenir de sa mère. Voilà ce qu'écrit Giono. Vous saurez que cette romance, qui a également pour moi une grande importance sentimentale, se rattache à une époque désespérée de la vie de ma mère. J'avais 7 ans et elle me faisait appuyer ma joue contre son épaule pendant qu'elle jouait cela. C'est Vladimir Horowitz qu'on entendait là dans cette valse dite au regret que la postérité a ainsi surnommée. Ce n'est pas de Brahms, bien sûr, mais c'est comme ça qu'on l'appelle, notamment dans l'œuvre de Giono. En la bémol majeur, cette valse porte la référence opus 39, numéro 15.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
La musique est évoquée dans l'œuvre de Giono et elle inspire également son œuvre. En voici comme témoignage une lettre à Jean Carrière du 2 juin 1956. « C'est ici, Jean, dans le fauteuil qui est en face de ta table, pendant que tu me régalais du concerto pour flûte et harpe de Mozart, que je viens de trouver et d'organiser la fin du bonheur fou. Ce duel où Angelo va tuer Giuseppe, son frère. Il va le tuer avec tendresse devant toute la société de ce bal chez Ansaldi où Angelo est venu chercher son frère Félon. Et peut-être que dans les autres l'orchestre, qui n'a pas été prévenu du drame, continue à jouer ce concerto. Et bien ce concerto, en voici un enregistrement de l'époque de Giono. C'est Jean-Pierre Rampal à la flûte, Lili Laskine à la harpe, l'orchestre de chambre dirigé par Jean-François Paillard. C'est le final de ce Köchel 299, concerto pour flûte et harpe de Mozart. Thank you. L'orchestre de chambre de Jean-François Paillard accompagnait la flûte de Jean-Pierre Rampal et la harpe de Lily Laskin dans le concerto Köchel 299 de Mozart, dont nous écoutions le final. Jean-Pierre Rampal qui était présent dans la discothèque de Jean Giono, ce dont témoigne la thèse que je citais tout à l'heure d'André Lotté, qui répertorie quelques-uns des disques qu'écoutait Jean Giono. Et donc cette partition a été l'une des sources d'inspiration du Bonheur fou en 1957. Élise Giono, sa fille, se souvient de la musique présente dans ce foyer. Je suis né au milieu des textes de mon père et entouré de musique. Aussi loin que je m'en souvienne, j'entends la voix de mon père nous raconter des histoires ou nous lire ce qu'il était en train d'écrire. Et tout cela sur fond de musique. La grande passion à ce moment-là, c'était Bach. Je sautais à la corde sur les mouvements des concertos brandebourgeois. Après, ça a été Beethoven. Puis Mozart est arrivé dans notre vie. Il s'y est installé et il n'en est jamais parti. Alors, Bach et Mozart ont été centraux dans l'œuvre de Giono. Beethoven peut-être un peu moins, en tout cas il connaissait très bien ce répertoire, même si à la fin de sa vie il concevait qu'il y a usure, car je connais trop ses symphonies, jamais pourtant je n'éprouverai de satiété à écouter les derniers quatuors et les sonates. Et pourtant, on trouve dans le journal de Jean Giono un texte qui fait allusion à un enregistrement précis, c'est en janvier 1937, « Je suis exactement comme si on allait tirer la manche de mettons Toscanini quand il dirige la septième de Beethoven, au moment où éclatent les cuivres et les peaux et les ébranlements du monde en marche pour lui dire « Venez, il y a dehors une femme qui a besoin d'un verre d'eau ».
Thank you.
L'Orchestre symphonique de la NBC de New York, dirigé par Arturo Toscanini. Voilà l'enregistrement qui a été réalisé après la guerre. Mais de Toscanini, il y a d'autres enregistrements d'avant-guerre que connaissait bien Giono. C'était le presto de la 7e symphonie en la majeure de Ludwig van Beethoven, dont Giono connaissait très bien les œuvres orchestrales. Autre compositeur cher au cœur de Giono, c'est Domenico Scarlatti. En témoigne un texte de Giono sur quelques sonates de Scarlatti. En témoigne également dans sa discothèque la présence de disque de Wanda Landowska. Écoutez maintenant quelques-unes de ces sonates de Scarlatti que j'aime le plus. Le palais sonore au toit de dentelle dans lequel on va entrer, ces tapisseries de princes dont on va être entouré, ces passions vêtues de fer et de velours qui vont déambuler dans des escaliers de Jacob, et l'exquise marche triomphale à la fois si humble et si désinvolte qui ferme la petite sonate en fa majeur.
Thank you.
enregistrement que Jean Giono a beaucoup écouté, cette sonate en fa majeur Kirkpatrick 256 de Domenico Scarlatti, interprétée par Wanda Landowska.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Nous avons commencé cette émission en écoutant la pianiste Yvonne Lefébure jouer « Que ma joie demeure » de Jean-Sébastien Bach, qui a donné son nom à un roman de 1935. Mais c'est simplement le titre qui s'inspire de cette partition. Pour la construction de l'œuvre, il y a une autre chef-d'œuvre de Jean-Sébastien Bach qui est au cœur de la réflexion de Giono. « Ce que je veux, c'est tout donner, dialogues et perceptions de paysages et lieux de l'action sensuellement. Je veux faire sentir. Je suis obligé de briser la syntaxe pour avoir en main d'abord une matière première extrêmement ductile. Ça, d'abord. Ensuite, la construction. Généralement, pour moi, c'est une construction qui se rapproche extrêmement de la construction musicale symphonique. Par exemple, pour « Que ma joie demeure », si la cantate d'église m'a fourni le titre et l'impulsion, j'étais fortement impressionné pendant la construction par la passacaille en do mineur de Bach, où j'ai trouvé la couleur et la combinaison des thèmes que je désirais. C'est sur la construction de la passacaille que j'ai essayé de construire.
Thank you.
C'est du vivant de Jean Giono en 1967 que Michel Chapuis avait enregistré cette passacaille en do mineur BWV 582 de Jean-Sébastien Bach dans l'église Notre Sauveur de Copenhague. Voilà une partition qui a déterminé l'écriture du roman Que ma joie demeure, Jean Giono s'inspirant de l'architecture de cet immense chef-d'œuvre de Jean-Sébastien Bach. Alors, après Bach, Scarlatti, Mozart, Beethoven ou encore Brahms, bien évoquons les compositeurs vivants, en tout cas ceux qui étaient vivants à l'époque de Jean Giono. Et nous commençons par Maurice Jaubert, dont on connaît surtout les musiques de films, musique pour Jean Renoir, René Clair, Julien Duvivier, Marcel Carné. Maurice Jaubert, mort pour la France le 19 juin 1940, et il l'ignorait bien sûr, mais François Truffaut dans les années 70 allait utiliser sa musique dans quatre de ses films. Eh bien, Maurice Jaubert est l'un des compositeurs qui a mis en musique les textes de Jean Giono, cinq chants de métiers de la Haute-Provence, rémouleur, potier, flotteur de bois, fontainier ou encore boucher, comme on va l'entendre, des textes soi-disant collectés parmi les paysans, disait Jean Giono, qui avouera plus tard les avoir inventés lui-même.
Tu vois, ça n'est pas ma faute, on nous a fait comme ça. Il y a l'épicière qui veut faire de la blanquette, et même le curé mange de la viande pour son beau ventre. Ne pleure pas, bête. On nous a fait comme ça, et on l'a écrit une fois pour toutes. C'est fini, on n'y peut pas revenir. Le sort de l'un, le sort de l'autre, c'est lié comme des mains entrelacées. Et c'est avec ça qu'on tient le monde vivant, tous unis, toi et puis moi. Et Jésus-Christ mangeait du chevreau pourtant. Ne pleure pas, bête.
Voilà une chanson pour les véganes, c'est le boucher qui s'adresse à cette bête qu'il s'apprête à tuer pour en faire de la viande. Le boucher de Jean Giono, mis en musique par Maurice Jaubert et chanté par Joseph Perron avec au piano Jean-Michel Damaz. Alors impossible de ne pas évoquer Jean Giono et le cinéma. Et impossible de ne pas mentionner Marcel Pagnol qui a adapté au cinéma plusieurs livres de Jean Giono, que ce soit dans les films comme Geoffroy, Angèle, Regain, La femme du boulanger avec la bande à Marcel Pagnol, et Fernandelle, Les Rému et autres, Orane de Mazy. 1933, c'est donc Geoffroy, le premier film de Pagnol inspiré d'une nouvelle de Giono, avec dans le rôle titre Vincent Scotto, qui joue le rôle de ce vieux paysan provençal et qui écrit également la musique du film. Il écrira également, Vincent Scotto, la musique d'Angèle, comme on va l'entendre. C'est un premier extrait de film de Pagnol. Et juste après, musique d'Arthur Honegger pour Regain. Mais d'abord Angèle, avec, souvenez-vous, pour ceux qui l'ont vu, Orane de Mazy, contrainte de se prostituer avec Fernandelle. Et ce film est à revoir, considéré comme, notamment par Jean-Luc Godard, comme l'un des trois plus grands films de l'histoire du cinéma.
Thank you.
En 1937, Jean Giono avait rencontré le compositeur Arthur Honegger sur le plateau du tournage de Regain, film de Marcel Pagnol inspiré de Giono. Et malgré les tensions qu'il y a pu avoir entre Pagnol et Giono, Jean Giono va toujours témoigner de son admiration pour Arthur Honegger, qui a écrit cette musique pour Regain, la renaissance du village d'Aubignan en Haute-Provence avec Fernandel et Orane de Mazy. C'était le jeune orchestre symphonique de Douai dirigé par Henri Vacher. J'ai beaucoup aimé Honegger, je le connaissais, mais ce n'était pas pour ça que je l'aimais, car je l'ai aimé avant de le connaître. Le roi David, Pacifique de 131, à peu près tout ce qu'il avait enregistré à l'époque, c'est-à-dire à peu près tout ce qu'il avait écrit, j'ai presque tout aimé de lui. Il y a quelque chose de mozartien dans la phrase de Honegger.
Arabesque, François-Xavier Chemtcha, France Musique.
Et puis parmi ceux qu'on appelait les musiciens du groupe des six, il y a Darius Milhaud qui aurait dû écrire une œuvre sur un texte de Giono. Il y avait un projet commun autour de l'Odyssée qui malheureusement n'a pas vu le jour, à part une page manuscrite de 1934 à Jean Giono, souvenir de l'Enclos et de l'Odyssée. L'Enclos, c'est la résidence des Milhaud à Aix-en-Provence où souvent Giono s'était rendu. Alors nous ne pouvons pas entendre cette œuvre puisqu'elle n'a pas été terminée, en tout cas elle est juste esquissée. Voici une partition contemporaine de la relation de Darius Milhaud avec Jean Giono. C'est son concerto pour piano, ici interprété par Marguerite Long avec l'Orchestre National sous la direction du compositeur.
Thank you.
C'est en 1933 que Darius Milhaud a composé son concerto pour piano opus 127, dont nous écoutions le premier mouvement, avec Marguerite Long et l'Orchestre National, dirigé par le compositeur qui côtoyait alors Jean Giono pour ce projet musical qui n'aura pas eu lieu. En tout cas, quelques traces de cette collaboration peut-être retrouvées sur ce livre que j'évoquais, d'Aline et Sylvie Giono, dossier sur la musique, avec en couverture un Jean Giono assis qui joue de l'harmonica, en tout cas il souffle dans un harmonica, qui témoigne aussi d'une certaine passion musicale de Giono. Alors en 1969, quelques temps avant sa mort, il accordait un entretien à Robert Ricat où il était question de ses goûts musicaux et notamment du XXe siècle. « Je mettrais Honegger, génie européen, au-dessus de Milhaud. Et j'aime Berg, Alban Berg, n'ayant pas réussi à déterminer le plaisir que ce dernier me donne. Il suffit déjà qu'il m'en donne. » Avec Stravinsky, pas de commune longueur d'onde. Loin du monde contemporain de l'insolite, j'admire Karl Orff et Joachim Rodrigo, d'authentiques créateurs. Connaissez-vous le concerto pour un gentilhomme du musicien espagnol ? Une merveille. Le maçon prit la guitare et il commença à passer ses mains sur les cordes. Il se mit à jouer avec une espèce de fureur concentrée. Les femmes n'osaient plus bouger. Elles étaient touchées au beau milieu d'elles-mêmes, dans le sombre du ventre. Elles sentaient leur faim et leur faiblesse. Voilà un extrait de Jean le Bleu, de Jean Giono, qui plus tard sera un admirateur de cette partition de Joaquín Rodrigo, Fantaisie pour un gentilhomme, dont ce quatrième mouvement Canario était interprété par Toribio Santos avec l'Orchestre National de l'Opéra de Monte Carlo, dirigé par Claudio Simone. Et nous allons conclure cette émission avec une partition merveilleusement décrite et commentée par Jean Giono. Elle a été écrite pour les collines, les forêts, les vastes horizons et les âmes sensibles. C'est la messe du couronnement de Mozart. été écrite pour les collines, les forêts, les vastes horizons et les âmes sensibles. Voilà ce que Jean Giono disait de la messe du couronnement en Köchel 317 de Mozart, dont nous écoutions le credo avec le chœur et l'orchestre symphonique de la radio bavaroise dirigé par Raphaël Kubelik.
À réécouter sur francemusique.fr.